Carnet de campagne, bonjour. Deuxième semaine francilienne, cette fois dans le département de l'Essonne. Évry, Étampes, Palaiseau, Corbeil-Essonne. Quatre villes, par exemple, qui portent quatre nuances propres à ce département, comme à ceux d'ailleurs souvent de la grande couronne parisienne. Les villes nouvelles, d'un côté, celles qui accompagnent l'extension démographique. Les villes qui concentrent les activités commerciales. Celles qui se rapprochent d'un périurbain un peu éloigné, résidentiel. Et puis enfin, celles qui sentent l'herbe verte au départ de la Beauce. Dans cette mosaïque de profils, nous allons écouter une grande diversité d'acteurs cette semaine. Pour ouvrir cette séquence, un des inventeurs d'une branche fameuse de l'insertion par la activité, Jean-Guy Henkel, souvenez-vous, le créateur des Jardins de Cocagne, une voix que nous n'avions pas entendue depuis quelque temps dans les carnets. Jean-Guy annonce des nouveautés de son réseau dans ce département de l'Essonne. Et dans le second volet, nous recevrons Thierry Duboîtier pour mesurer l'évolution du Groupement National d'Initiatives et d'Acteurs Citoyens, le GNIAC, force de proposition de nouvelles solutions économiques et sociales.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Jean-Guy Henkel, bonjour.
Bonjour.
Quel plaisir de vous entendre, Jean-Guy, créateur du réseau Cocagne, directeur national de ce réseau qui en est aujourd'hui à bien 130 jardins, 4000 jardiniers en parcours d'insertion. La moitié retrouve un emploi ou intègre une formation qualifiante. 20 000 adhérents consommateurs de paniers légumes issus d'une agriculture biologique de proximité avec des produits de saison. Et là, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Le réseau prend une autre envergure avec le projet de la Maison Cocagne ?
Ben oui, sur un territoire d'exception qui est dévolu à la recherche et développement, le fameux plateau de Saclay, qui rassemble des grandes entreprises et des grandes écoles, Cocagne a décidé d'y mettre son petit grain de sel grâce à la volonté d'une communauté de religieuses de bénédictines qui ont souhaité nous céder une ferme qu'elle n'exploitait plus depuis quelques années pour y développer ce projet de la Maison Cocagne. Un jardin de cocagne à grande échelle qui va préfigurer un petit peu de l'avenir, un centre de formation qui va être ouvert à tous les permanents de tous les jardins de cocagne de toute la France, et puis toute une logistique autour de l'hébergement, de la restauration, de la location de salles qu'on voudrait ouvert non seulement à Cocagne, mais aussi à tous nos partenaires publics, les entreprises, les citoyens, les acteurs de l'économie sociale et solidaire.
C'est-à-dire que Cocagne prend un autre sens?
Pas forcément un autre sens, mais dans une période compliquée où il y a de plus en plus de publics en difficulté, où les pouvoirs publics, malgré tout ce qu'ils souhaitent pouvoir faire, ont un peu plus de difficultés à financer ces opérations d'insertion par l'activité économique. Il fallait que Cocagne puisse aussi réagir et amener des projets qui soient un peu plus rémunérateurs, un peu plus grands, mais qui continuent tout le temps dans la même philosophie, à savoir rendre un service à des publics en difficulté recrutés localement. Et puis développer ces circuits courts de l'agriculture bio qui sont souvent cantonnés dans des petites initiatives d'ailleurs très intéressantes, mais qui doivent aussi se poser à leur niveau le problème du changement d'échelle.
Oui, un changement d'échelle là où on n'est plus avec des familles ou des adhérents, mais on peut avoir des entreprises qui vont adhérer à la production issue de ce territoire très expérimental de la Maison de Cocagne.
C'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on reste aujourd'hui très centré sur le public et les citoyens qui habitent ce territoire particulier et qui viennent déjà chercher des paniers de légumes bio chaque semaine, mais en même temps d'offrir à des entreprises, à travers leurs collaborateurs, la possibilité aussi d'accéder à cette offre alimentaire particulière et locale.
Je remarque que vous êtes toujours en recherche d'encadrants maraîchers et le lieu sera aussi un terrain de formation, parce qu'on parle beaucoup des gens en insertion, mais pas des professionnels qui les encadrent.
Ah, mais les professionnels qui les encadrent sont totalement déterminants dans la bonne marche de toutes ces initiatives chez Cocagne, à savoir que recruter des publics qui ne sont pas du tout des professionnels ne peut fonctionner et être rémunérateur que si effectivement ils sont accompagnés tous les jours par des dirigeants à la hauteur et surtout des encadrants techniques. Ces maraîchers professionnels qui doivent avoir une espèce de double compétence, celle d'abord du métier de cocagne, de faire pousser 60 à 80 légumes différents et puis en avoir 4 ou 5 à mettre chaque semaine de l'année dans des paniers, ce qui est déjà une gageure.
Oui.
Et puis en plus de savoir encadrer des équipes non professionnelles avec des gens qui ont tous des problèmes aussi à régler. Donc c'est des moutons à 5 pattes, c'est des métiers qui n'existent pas. Et donc il fallait aussi que Cocagne puisse miser sur cette richesse humaine dans l'avenir en formant nous-mêmes ces encadrants techniques.
Ouais. Et Jean-Guy, donc il y a une autre réalité, parce qu'il y a un autre espace, là il est déjà en fonctionnement à Vrainville, Fleur de Cocagne. Alors ça c'est un autre concept, et je découvre grâce à vous que 85% des fleurs coupées vendues en France sont importées.
Oui, ben, elles traversent la planète aujourd'hui, puisque là malheureusement beaucoup d'horticulteurs français ont arrêté leur activité.
Oui.
Et puis ben, parallèlement, il nous semble qu'il y a une discrimination particulière en direction des publics féminins en difficulté et à qui on offre, comme malheureusement, quand elles ont des problèmes sociaux et de déqualification, souvent des métiers autour du ménage et du service. Et en l'occurrence, on voulait augmenter un petit peu cette palette d'activités dans un milieu professionnel qui nous semble beaucoup plus gratifiant, et en particulier autour du milieu de la fleur.
Oui.
Donc l'idée, ben, c'est de devenir un producteur fleuriste bio, local et solidaire.
Oui. Fleur de Cocagne d'Avrainville, donc c'est une quinzaine d'emplois, dont les deux tiers pour des femmes, des hommes qui sont en insertion professionnelle. Réseaucocagne.asso.fr pour l'adresse, il y a aussi la page Facebook que vous allez retrouver sur la nôtre et puis sur notre page d'émission Carnet de campagne à franceinter.fr. Merci Jean-Guy Henkel et à bientôt.
Merci.
Je voudrais vous parler d'un exemple intéressant, mais qui concerne les petits boulots. Les petits boulots sont souvent dépréciés, si on considère que c'est de la petite besogne pour les exclus. Pourtant, il y a un programme qui a été expérimenté en 2000 au Québec et qui est introduit depuis peu en France. Il s'appelle Tapage. Il faut traduire par travail alternatif payé à la journée. Comme l'écrit Pascal, merci au passage, correspondant des carnets, Tapage permet de remettre au travail des personnes totalement désinsérées, comme il l'écrit. Ce programme est mis en route actuellement dans l'Essonne. Il est soutenu par la mission interministériel de lutte contre les drogues et les conduites addictives, car il concerne en effet des personnes à la rue, principalement des jeunes en situation d'errance qui sont souvent en rejet des institutions, qui dépendent de la mendicité et puis de différentes addictions. Le constat est qu'il est très difficile, voire impossible, d'entreprendre une démarche d'insertion professionnelle avec la plupart de ces jeunes. Alors, Tapage se présente sous trois phases qui permettent à ce public d'être immédiatement employé, rémunéré à la tâche et à la journée. Seule condition pour essayer de sortir provisoirement de l'impasse. Donc la première phase est une inscription à un chantier de travail par l'intermédiaire des éducateurs de rue, des centres de soins ou directement par téléphone. Et les chantiers durent 4 heures, ils sont rémunérés 10 euros de l'heure et versés en chèque emploi-service échangeable en liquide dans les bureaux de poste. Deuxième phase sont des chantiers de plus longue durée avec un contrat de travail et un accompagnement et une aide à l'hébergement. Puis la troisième phase, c'est un véritable accompagnement professionnel, cette fois avec des formations qualifiantes. Tapage.org pour l'adresse si vous voulez avoir de plus amples informations à ce sujet. Thierry Duboîtier, bonjour.
Bonjour.
Thierry, président fondateur d'un groupement un peu bizarre pour le nom, mais pertinent, puis qui correspond donc à la démarche que nous valorisons, ou les démarches que nous valorisons dans les carnets de campagne. On avait présenté à l'époque de la fondation très rapidement SONIAC, qui est un groupement national des initiatives et des acteurs citoyens. Aujourd'hui, il s'amplifie, 200 membres qui représentent 40 départements. Que font-ils au sein de ce groupement ?
Alors d'abord, ils partagent, puisque finalement, l'idée, c'est quand même de mettre en réseau, en relation des personnes d'origine professionnelle diversifiée qui portent des initiatives ou qui ont des compétences et qui, entre eux, peuvent échanger pour améliorer les choses. Donc à partir de là, on a ce socle de compétences assez solide dans différents domaines, que ce soit l'emploi, l'insertion, la création d'entreprises, la citoyenneté, la lutte contre les discriminations, c'est très large. Et après, on essaye donc d'apporter un appui, finalement, au développement des initiatives.
Oui.
Alors par exemple, on a un truc qu'on appelle le GAIN, groupe d'appui aux initiatives, où on met une personne qui, dans le réseau, a un besoin pour développer son projet, qui ne sait pas trop comment faire. Eh bien, on va mobiliser au sein du réseau les meilleures compétences et on va regarder ensemble, de manière totalement, on va dire, hors cadre, décontractée, sans langue de bois, comment est-ce qu'on peut l'aider et le soutenir.
Voilà, ça, mais aider et soutenir, ça veut dire faire connaître, bah, c'est de la communication,
c'est un apport financier. Alors financier, non, on veut dire que NIAC n'a pas d'argent, ça je précise tout de suite. Oui. On n'a pas d'argent, mais on a beaucoup de relations, des réseaux, on connaît beaucoup de gens, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on peut, grâce à ce réseau, finalement, aller directement aux bonnes personnes, parce que vous avez beaucoup de gens, finalement, ont des projets intéressants, ne savent pas très bien à quelle porte s'adresser, croient qu'il faut s'adresser à un tel, alors que ce n'est pas forcément la bonne personne. Donc nous, étant donné qu'on a une diversité de personnes dans différentes structures, et bien ça nous permet de cibler tout de suite la personne la plus compétente. Par contre, ce n'est pas des passe-droits, c'est simplement déterminer la bonne personne qui peut nous aider de façon astucieuse. Mmh. Et par exemple, bon, un porteur de projet peut avoir tendance à penser uniquement subventions publiques, tout ça, le dossier, machin, alors que nous, on a autour de la table des gens qui viennent d'entreprises, de fondations, d'associations, qui vont lui donner des pistes de financement ou de développement de son projet beaucoup plus diversifié.
Oui. Comment garder une transparence au fur et à mesure que le groupe s'amplifie et gagne en membres, il y a un problème de mise en relation, il y a un problème de lecture, il y a un problème de transparence, des échanges. Il faut garder le contrôle d'une certaine manière.
Oui, ben voilà. Alors c'est pour ça d'ailleurs que l'entrée dans le réseau se fait, on va dire, entre guillemets, par cooptation. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas la quantité, mais plutôt la qualité, et qu'on s'assure que les personnes qui rentrent, à la fois, peuvent apporter quelque chose au réseau et peuvent trouver quelque chose d'intéressant dans le réseau.
Alors, donc, le NIAC, Groupement National des Initiatives et des Acteurs Citoyens, le GAIN, dont vous venez de nous parler. Il y a aussi la Niagence.
Oui, oui, on décline.
Vous vous amusez bien.
Alors oui, alors ça, c'est aussi une caractéristique de ce
réseau. C'est sérieux, hein, pardon, entre parenthèses, quand même.
C'est sérieux, mais un, on ne se la pète pas, et deux, on est décontracté et dans l'empathie et la coopération. Les gens qui sont là, même si parfois, à titre professionnel, ils ont pu avoir des relations conflictuelles, ils sont en concurrence sur des appels d'offres, des choses comme ça. Mais là, dans le réseau, bon, on se lâche un peu, on est là sans langue de bois, et il se passe forcément quelque chose. Alors la Niagence, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est le gouvernement là, propose de créer une grande agence de développement économique pour les territoires fragiles. Bon, très bien. Alors d'une part, on peut proposer tout de suite des actions opérationnelles qui correspondent à l'idée de cette agence, que ce soit dans le domaine de l'emploi, de la création d'entreprises, des locaux d'activité, etc. Et d'autre part, tout simplement en mettant la liste des 90 personnes qui, dans le réseau, correspondent à peu près à des profils de thématiques qui concernent l'agence, eh bien, on a un réseau d'experts qui existe déjà. Ce sont des gens qui sont opérationnels dans les problèmes de recrutement, dans les problèmes de création d'entreprises, de locaux d'activité, de numérique, de mobilité, etc. Alors, c'est un peu une façon de dire, voilà, la Niagence, c'est quoi ? C'est 90 experts opérationnels, membres de NIAC, qui peuvent tout de suite apporter un appui. Au lieu de créer un gros machin, peut-être qu'on pourrait d'abord utiliser mieux tout ce qui existe déjà, et notamment mettre en réseau tous ces experts, enfin, ce que l'on fait à NIAC, mais on pourrait aller plus loin après sur des prestations.
Oui. En vous entendant, Thierry, j'ai l'impression que vous allez très vite, parce que le NIAC a été constitué il y a un an. Bon, et voilà, il y a une toile qui se tisse, avec des antennes locales ou régionales que vous appelez de vos voeux à voir naître. Il y a aussi des initiatives que vous repérez pour l'emploi et le développement économique immédiatement déployables. On ne perd pas de temps.
Oui,
on va en présenter dans les semaines à venir.
Oui, parce qu'en fait, il y a déjà des gens qui font sur le terrain. Heureusement d'ailleurs, parce que s'il fallait tout construire, simplement nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les repère et on les met en réseau et on les aide à se développer. Donc on dit au pouvoir public, OK, vous voulez créer une agence, bon, c'est très bien, il y a peut-être des choses à améliorer, de coordination, etc. Mais par contre, il y a déjà des initiatives dans toutes sortes de domaines. Exploitons tout de suite ces initiatives qui sont déjà opérationnelles et qu'il suffirait d'aider à dupliquer. Une agence peut peut-être aider à ça, mais en tout cas, on a déjà les actions. Il y a des gens qui font, donc appuyons-nous là-dessus. C'est ça notre idée.
NIAC.fr. NIAC, c'est G-N-I-A-C, je répète, le Groupement National des Initiatives et des Acteurs Citoyens. NIAC.fr à retrouver sur notre page Carnet de Campagne franceinter.fr et sur notre page Facebook. Merci Thierry Duboîtier.
Merci.
Dernier mot de conclusion pour les prochaines étapes. Nous serons dans le Val d'Oise et dans l'Eure en cette fin de mois de mai. Et ensuite, l'Eure-et-Loire. Et je vous annonce d'ores et déjà le Morbihan et le Maine-et-Loire. Vous pouvez nous écrire depuis ces territoires.